Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonsoir et merci de nous rejoindre à l'écoute de Radio Foot International dans cette deuxième édition consacrée en partie évidemment à la Coupe du Monde 2019 et au match qui s'est déroulé ce soir et qui s'est conclu par une deuxième victoire pour les Bleus. Des Bleus en route pour les huitièmes de finale après cette victoire face à la Norvège. Un match difficile face à des adversaires qui ont bien résisté. Score final 2-1 avec 3 buts des Françaises et vous comprendrez pourquoi. Prochains adversaires des Bleus, le Nigeria, qui a remporté une belle victoire aussi cet après-midi, 2-0 devant la Corée du Sud, et une première victoire pour l'Afrique et les championnes en titre du continent. Les filles en Coupe du Monde, officiellement depuis 1991, mais il y en a eu plusieurs. Des compétitions féminines internationales avant 1991 en Italie, au Mexique ou encore en Chine. Un livre raconte ces tournois pirates aux yeux de la FIFA et nous en parlerons avec leur auteur, Thibaut Rabeux, auteur de cet ouvrage. Les Bleus, les hommes de Didier Deschamps, ont gagné leur droit à des vacances en gagnant leur match en Andorre. Sérieux pour corriger un peu leur sortie de route en Turquie, reprendre la tête du groupe H des éliminatoires de l'Euro. En ma compagnie ce soir, Cindy Colmenares, notre consoeur du Venezuela. Bonsoir Cindy.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Et puis Salim Bongali de RMC Sport. Bonsoir Salim.
Bonsoir Annie, bonsoir à toutes et
merci d'être là, de veiller avec nous, de veiller aussi avec Louis Lafargue et Laurent Salim. Salerno, Radio Foot, deuxième édition, c'est parti.
La Coupe du Monde féminine de la FIFA, France 2019.
La Amandine Henry qui progresse, qui a du champ. Elle est dans l'axe, elle trouve à gauche Amel Majri qui est, elle aussi a du champ. Elle va centrer, Amel Majri du pied gauche. Elle a repris, c'est le but de Valérie Gauvin.
L'ouverture du score pour l'équipe de France alors qu'on jouait depuis 45 secondes dans la deuxième période.
On l'a mis de Wendy Renard, mais pourquoi elle a repris et ce ballon, cette frappe qui était sans danger vers l'Obsled. Pourquoi a-t-elle touché ce ballon à Wendy? Et pénalty pour l'équipe de France. Ah là, attention, hein, encore faut-il le marquer.
C'est génial de sa mère qui attend les mains hein, sur les hanches. En position pour frapper, elle est légèrement décalée côté gauche avec son pied droit. Elle frappe et ça passe du poteau droit, deuxième set. Le deuxième but de l'équipe de France marqué par Eugénie Le Sommer.
La fin du match, c'est la victoire de l'équipe de France sur la Norvège. 2-1.
Voilà, 2-1, et on les entend, les 34 000 personnes qui criaient dans ce stade de Nice, qui encourageaient les Bleus dans un stade où elles les ont finalement eh bien poussées vers la victoire, toutes ces personnes qui étaient là et qui étaient là pour les voir gagner. Éric Chorin, bonsoir.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Alors Éric, je disais en plaisantant, 3 buts ce soir et 3 buts signés des Françaises. On vous entend là dans ce résumé réalisé par Laurent Salerno. Mais Wendy, pourquoi? Alors racontez-nous.
Bah, on n'a pas compris pourquoi elle prenait ce ballon. Mais bon, il y avait de la pression effectivement avec Graham Hansen dans son dos. Peut-être qu'elle a pas, oui, qu'elle a un peu exagéré le danger. Puis surtout pour faire ça, quoi, parce que le pied, elle l'a vraiment pas assez ouvert. Si elle voulait vraiment écarter le ballon, elle a vraiment mis le but parfait en faisant quasiment rien, quoi, juste en tendant la jambe et hop, le but. Elle a trompé Sarah Bouhadi et on ne sentait pas le danger aussi présent dans son dos. Alors peut-être qu'il était quand même réellement présent, hein, Graham Hansen derrière, elle avait été bien servie par Erlofsen. Mais à ce moment-là, quand ça arrive, alors que les Bleus, qui ont peiné toute une mi-temps, viennent d'ouvrir le score par Valérie Gauvin à l'entame de la deuxième période, on se dit quand même que le ciel est tombé sur la tête des Françaises.
Ouais, et ça se voit dans leur regard, ça se voit dans leur cette espèce de moment de doute comme ça. Éric, avant de revenir sur le détail et sur les buteuses, comment avez-vous trouvé cette rencontre? On s'attendait à un match difficile, on pensait que c'était l'adversaire difficile pour les Bleus dans ce groupe A, c'est exactement ça.
Bah c'est, oui, ça a été le match entre les deux équipes fortes de ce groupe. Une confrontation avec beaucoup de densité physique quand même, des difficultés à trouver de la place sur les côtés au départ, et notamment du côté droit de l'équipe de France, qui avait été un côté assez fort face à la Corée du Sud. Oui, beaucoup d'engagement et beaucoup de technique quand même de la part des Norvégiennes, qui combinaient bien, qui avaient du cran, et des Françaises qui ont eu du mal à trouver des solutions. Oui, le match qu'on attendait, avec de l'intensité, de l'engagement, le test, le vrai test que les Bleus devaient passer. Et il y a eu un scénario avec des coups du sort. On a surtout vu une équipe de France qui a prouvé qu'elle avait une grosse capacité à réagir dans l'adversité après avoir dominé un match qu'elle a quand même, non pas failli perdre, mais qu'elle a failli concéder ce nul après cette égalisation sur le but contre son camp de Wendy Renard. Donc oui, le match est peut-être important pour montrer que on a quand même une équipe costaude, parce qu'elles ont eu un match difficile en 2019, c'était face à l'Allemagne en match de préparation, et celui-là elle avait perdu 1-0 sans trouver de solution. Là elles ont réussi à réagir avec une équipe qui présentait des similitudes.
Oui, Salim, on suivait cette rencontre ensemble. Mm-hmm. On était assez impressionnés, c'était par les contre-attaques des Norvégiennes qui finalement auront fait trembler jusqu'au bout.
Oui, c'est vrai que en préparant, d'ailleurs, en regardant ce match ensemble, et même avant, je l'assume d'ailleurs à l'antenne, c'est vrai que je voyais un écart plus important entre la France et la Norvège. Je voyais pourquoi pas même un 3-0 pour l'équipe de France, tant cette équipe de France, certes, nous avait impressionné sur le premier match, et tant l'équipe de Norvège est pas forcément sur une génération exceptionnelle par rapport à ce qu'on a pu connaître par le passé. On l'appelle Ada Hegerberg, la meilleure joueuse du monde, n'est pas présente pour ce mondial. Bref, tout ça me faisait dire que la Norvège était un ton en dessous. La plupart des joueuses sont en Norvège, là où auparavant on avait beaucoup plus de joueuses qui jouaient à l'étranger. Et au final, aujourd'hui, on a vu certes une équipe de France qui a possédé la balle, comme habituellement, mais une équipe norvégienne qui a très bien évolué en contre. C'est pour ça qu'en première période, on voyait souvent cette défense qui était en difficulté et qui devait bien surveiller ces Norvégiennes, et elle a plutôt bien fait en première période. Mais la Norvège, oui, m'a impressionné en première, et c'est pour ça que de voir la France au final s'imposer 2-1 face à un adversaire qui, au final, loin d'être ridicule, c'est un très bon test. On reviendra sur but de Renard, le CSC, mais surtout concéder un but, même si c'est contre son camp, se faire revenir et remonter à 1-1, avoir le mental pour au final gagner 2-1, ça compte, et pas qu'un peu pour la suite de la compétition.
Et vous, Cindy, comment vous avez vu cette prestation de l'équipe de France et cette vraie bagarre? Parce qu'il y a en tout cas en première mi-temps, c'était une large possession en faveur des Françaises, mais ces contre-attaques qui étaient assez fortes.
Oui, en fait, l'équipe norvégienne a été très bonne en agressivité et puis en défense, et il faut savoir aussi qu'il y a des joueuses qui ont eu du mal du côté français à rentrer dans les matchs. Par exemple, comme Marchi, qui au début avait un peu du mal à démarrer, et puis finalement nous a servi à un très bon match. Moi, j'avais une vision différente. Au début, je me suis dit, les Norvégiennes, elles n'arrivent pas en demi depuis 2007, donc peut-être que les Blues, qui de toute façon étaient favorites, allaient avoir une bonne chance, mais quelque part, les Blues face aux Norvégiennes, ce sont 5 victoires pour 8 défaites, donc on s'est dit, est-ce qu'elles vont vraiment y arriver, même si elles étaient favorites? Mais je trouve surtout que les choix de Corinne Diacre par rapport à ces matchs ont été très bien. Tout le monde a un peu râlé en France en disant « Mais alors, elle est où notre chouchoute de l'équipe française maintenant,
Cascarino ?»
Exactement. Mm-hmm. Et finalement, elle a fait les choix de choisir Diani sur les couloirs droits et puis Gauvin à l'attaque. Je trouve que c'est excellent parce que les Norvégiennes, il leur fallait ça. Il leur fallait vraiment une personne très solide. On va dire,
et
c'est pas une question de taille, on n'est pas ça. Hein, je suis
non, mais
petite.
Mais il fallait du physique à mon dans cette surface de réparation.
Mais oui, mais s'imposer.
Clairement, et donc, du coup, qui puisse vraiment compter. Alors, seul vraiment regret que j'ai par rapport à ces matchs, c'est l'avant-dernier geste, quoi. À chaque fois, on se rendait compte qu'il y avait des centres. Les centres, ils s'étaient ratés par moments. Diani, qui passait les ballons, parfois, elle ne les passait pas. Donc, c'était un peu compliqué par rapport à ça. Mais finalement, un très bon match de Bleu. Hein. C'est très encourageant. On pouvait pas juger vraiment contre la Corée du Sud. Et finalement, j'allais dire du Sud. Et donc, finalement, on a vu un bon match.
Eric, question, parce que ça se discute un peu. Y avait-il pénalty ou pas pour vous qui étiez là-bas?
Est-ce qu'il y avait... Il y a eu une faute, effectivement.
Pour Salim,
parce que...
immédiatement, il a dit il va y avoir pénalty. Donc lui, il a bien anticipé.
Le contact y est. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'il n'y ait pas pénalty? Ce serait qu'elle n'y ait pas eu intentionnalité, qu'elle ait touché le ballon.
Est-ce qu'elle touche elle touche au même temps. Et on avait l'impression que la joueuse française, elle touchait Torrent, touchait un peu avant. Mais pour moi, il y a pénalty. Il n'y a pas de doute.
Le terme, Eric en a parlé, le côté intentionnalité. Oui, on se doute que la Norvégienne, elle n'est pas là pour tenter de blesser Marion Torrent sur cette action.
Mais elle est imprudente.
C'est dégager la balle.
Pas de garçon, quoi.
Même dans la plupart des actions, voilà, si vous voulez. Mais la plupart des actions, effectivement, on suppose effectivement qu'il n'y a pas cette volonté de blesser. Après, et que ce soit donc dans le foot masculin ou féminin, à un moment donné, il y a aussi la manière de maintenir son geste, cette gestuelle. Et le problème, c'est qu'elle n'arrive pas à gérer son geste, cette jambe, la Norvégienne. C'est qu'elle veut dégager cette balle, très bien, mais après, ce pied-là va sur le genou de Torrent. Donc, la faute, elle n'est sans doute pas volontaire, mais elle existe.
Elle y est, oui.
Alors, Eric.
Oui, mais moi je suis d'accord. Après, on a le sentiment qu'elle veut sans doute jouer le ballon au départ, mais effectivement, elle ne contrôle pas son geste. Et là, il atterrit sur le genou et elle est en retard sur Marion Thuram, qui est récompensée elle par sa blessure. Mais enfin bon, ça va, elle s'en est bien remise. Et surtout de ses efforts pour tirer au but, et essayer de renverser la situation à ce moment-là. Oui, pour moi il y est, même s'il a fallu l'arbitrage vidéo. Rappelons que la VAR avait été utilisée contre la France lors du premier match et un but refusé pour Grigem Bogbati. C'est vrai qu'il y avait
très beau but,
il,
en plus.
Il était magnifique en revanche. Et nous, d'où on était dans la tribune, on ne pouvait pas voir le hors-jeu. Il y avait trop de joueuses sud-coréennes sur la ligne pour voir que les doigts de pied de Grigem Bog dépassaient. Mais là, oui, pareil. Là, c'était en faveur de l'équipe de France à ce moment-là du match. Oui, il y a le geste, pour moi, il y est. Il aurait pu faire mal.
Vraiment, depuis le début de cette compétition, il y a peut-être juste une fois où cette assistance vidéo a fait polémique. C'était lors du Angleterre-Écosse. Avec une décision arbitrale qui est allée en faveur des Anglaises, pardon, alors qu'on ne voyait pas forcément où était la faute. Mais sinon, mis à part ça, globalement, on a l'impression qu'on a une plutôt bonne utilisation, en tout cas, que ça va dans le sens des décisions plutôt légitimes.
En plus, il y avait une super arbitre sur le terrain. Eric, c'est la fameuse arbitre allemande dont on avait déjà parlé dans Radio Foot il y a plusieurs mois.
Policière.
Parce que, sans doute policière, mais surtout là, elle était en arbitre, Bibi Steinhaus, si je ne me trompe pas.
C'est ça.
Et qui arbitre en Bundesliga tout le reste de l'année, comme bientôt Stéphanie Frappard. Pas. Eric, quant aux buteuses, alors Valérie Gauvin finalement alignée aujourd'hui, et on l'a vu très entreprenante et finalement récompensée la première.
Oui, vous pouvez répéter votre question. Martinguez est revenu de la zone mixte et nous sommes en train de faire de l'échange de matériel et du coup j'ai pas très bien écouté ce que vous m'avez dit.
On a
je
vu
vous
son
explique.
Micro tout à l'heure. On a vu son
vous savez
micro.
Pour, vous savez pourquoi? Parce que la zone mixte est très très rapide sur cette Coupe du Monde. Il a été décidé que les joueuses venaient tout de suite immédiatement à la fin du match. Du coup il a pas pu rester jusqu'à la fin du débrief. Il est obligé de filer. Il est déjà revenu et là maintenant il file en conférence de presse parce que Corinne Diacre et la joueuse du match, Valérie Gauvin, vont s'exprimer.
Eh bien justement on était un peu à la pêche, nous aussi. Et Louis Lafargue a écouté Wendy Renard. Et justement, on va l'écouter parce qu'elle répond aussi sur ce geste, la pauvre, qui l'attend désespérée.
Ça nous met un coup derrière la tête. Mais après, non, j'ai continué déjà moi personnellement à jouer parce que dans ces moments-là, c'est jamais facile. Mais j'ai continué à garder le cap. Et derrière, je pense que je peux remercier les coéquipières et surtout EG qui a mis ce pénalty. Donc, C'est la beauté aussi du football, ça te rappelle tous les jours et chaque minute qu'il faut garder les pieds sur terre.
Voilà, il faut garder les pieds sur terre. Elle expliquait à un autre moment qu'effectivement, quelqu'un lui part dans le dos, elle croit qu'il y a quelqu'un, plus ou moins, Salim, c'est ça.
Elle croit entendre une parole, celle de Sarah Bouhadi en l'occurrence. Elle comprend qu'il y a quelque chose, alors qu'en fait, Sarah Bouhadi lui dit... T'es tranquille, t'es seul. Voilà, comme quoi, t'es seul ou t'as quelqu'un, parfois, quand vous avez 35 000 personnes autour de vous, vous ne l'entendez pas forcément très bien.
Mais c'est très bien, en tout cas, l'attitude de Renard, parce qu'elle arrive quand même à rester solide. Enfin, il faut, après une erreur comme ça, et à continuer son match.
C'est vraiment ça qu'il faut saluer.
C'est une belle attitude.
Et pour Renard et pour cette équipe de France, le test, il était aussi là, en tout cas, à l'heure de jeu, ou lorsque le but a été marqué. Comment réagir derrière? Les Françaises n'ont plutôt bien. première fois.
Et après, il y a les 12e hommes aussi. Il y a les publics qui a été merveilleux.
Alors,
les
deux autres... Je croyais que vous parliez de moi, c'est pour ça.
Non, mais vous êtes en concours, Eric, ça, vous savez. Hein.
Voilà, c'était pour ça.
Eric qui vit avec les filles depuis plus d'un an maintenant, n'est-ce pas?
Vous l'avez porté chance.
Eric, bon. Valérie Gauvin, donc, est le sommeur. Alors, Valérie Gauvin, titularisée aujourd'hui à la pointe. On se souvient l'autre jour de l'épisode où elle n'était pas là, où elle était rentrée en cours de match. Et là, finalement, elle est récompensée de ses efforts. On l'a vu hein, souvent bien placée. Et puis, ensuite, Eugénie Le Sommer qui convertit un nouveau but. Et là, c'était le pénalty.
Oui, puis alors, les statistiques le confirment, hein, ce statut de joueuse de match, bah, elle met un superbe but, hein, une très belle combinaison avec Amandine Henry et Amel Majri, mais il y a eu 16 tirs pour les Françaises, 5 cadrés, dont 4 par Valérie Gauvin. Enfin, il n'y a pas que des, que le pied, hein, la tête, les pieds, tout ça et tout. Donc, elle a quand même monté, pesé aujourd'hui, hein, sur le but des Norvégiennes, et elle est même montée en intensité en deuxième période, alors que souvent, bah, les avançantes, on les voit des fois un petit peu disparaître au cours d'un match, donc elle a fait vraiment un match plein, peut-être une revanche un peu à prendre, aussi pour la joueuse de Montpellier et de l'équipe de France.
Alors, pour ce qui est des réactions, nous, on en a certaines et on va écouter eh bien, quand même l'entraîneuse, Corinne Diacre. Allez, on l'écoutera dans quelques instants, pardon. En tout cas, sur les buteuses et puis dans l'ensemble, les filles, elles ont été au rendez-vous ce soir aussi. Corinne Diacre avait insisté sur le fait d'aligner le même 11. Et les filles ont continué.
Mais elle n'a pas aligné le moment, justement.
Mais oui, alors,
c'est un magnifique coup bluff. J'adore. Parce qu'elle est comme ça, elle aime garder les mystères.
Sauf que,
j'adore. Personne n'y s'y attendait. Hein. C'est magnifique. Oh,
ces dernières heures, si même Martin nous en avait un peu parlé, que sans doute Valérie Gauvin rentrerait.
Mais c'est vrai que le coup Cascarino aussi, on s'attendait. Mais au final, son entraîneur, hein, chez nos confrères de Canal+, l'a expliqué aussi, Renal Pedros, qui est son entraîneur à l'Olympique Lyonnais. C'est vrai que c'est une joueuse qui est tellement explosive, tellement pleine de vie sur un terrain, mais qui parfois ne peut pas forcément enchaîner deux rencontres de 90 minutes à une telle intensité. Donc, elle a besoin de se reposer ainsi. Donc, remplacée par Kadidiani. Quand je vous entends, en tout cas, Annie, à juste titre, c'est vrai qu'on peut saluer cette équipe de France encore une fois qui, globalement, a été plutôt bonne. Alors, certes, il y a eu des moments aussi moins bons parce que la Norvège, encore une fois, a répondu présent. Malgré tout, alors, et c'est là où c'est aussi une marge de progression pour la suite. Moi, il y a des joueuses, j'ai envie de la voir, je pense à Kadidiani. Cindy en parlait il y a quelques minutes. C'est une joueuse vivante, c'est une joueuse pêchue, c'est une joueuse qui y va. Elle court vite, elle passe rapidement ses adversaires, mais vous savez quand vous jouez au foot, c'est bien de jouer au foot avec la tête levée, j'entends par tête levée, c'est bien de voir où sont positionnés vos coéquipières, parce que quand vous centrez, c'est mieux de centrer en sachant où sont vos partenaires en question. Le problème c'est qu'Adiani, que ce soit à l'époque où elle jouait à Juvisy, maintenant au PSG et donc en équipe de France, c'est son gros défaut, je vous assure, depuis que je la vois et je la vois depuis un moment, même en équipe de France moins de 20, c'est son gros défaut. Elle peut déborder facilement, elle tire pas tant que ça, même si elle a progressé désormais. Mais elle ne sait pas lever la tête. C'est incroyable. Et c'est là où elle est, là, il y a sa marge de progression. C'est qu'elle doit à un moment regarder où sont ses partenaires pour pouvoir faire des passes décisives. Parce que c'est là où on l'attend aussi. C'est bien d'être rapide. C'est bien de passer ses adversaires. Il faut aussi passer la balle.
Après, je suis d'accord. Mais c'est pour ça qu'il y a aussi Corinne Diacre aime beaucoup Diani. C'est parce qu'elle fonctionne super bien dans l'axe, comme elle peut fonctionner à droite.
Bien
c'est
sûr.
Quand même un élément qui est intéressant. Même si je te rejoins sur ces points. Bon, après, je garde quand même une petite affection. C'est quand même la première joueuse à avoir gagné une Coupe du Monde lorsqu'elle était U17, c'est une fille qui a pas mal progressé. Il reste clairement encore des marges de progression par rapport à tout ça, mais elle reste quand même très bonne à venir embêter les défenses. Et il lui fallait lors de ces matchs parce qu'elles sont vraiment très bien. Mais alors là, très bon match des Norvégiennes au niveau de la défense.
Eric ?
Oui, non, je voulais juste dire que, avant de parler de, bah, des potes Gani, elle aura encore son heure, hein. C'est la buteuse en forme de cette équipe de France. Elle a marqué 6 de ses 10 buts en bleu, en 2019. Mais bon, ce soir, on a eu vraiment celle qui a répondu présent. Finalement, c'est quand même Valérie Gauvin, bon, à la pointe de l'attaque, qui a marqué un superbe but, qui a pesé sur cette équipe norvégienne, qui a répondu au choix de Corinne Diacre, qui a donc tout fait pour nous le masquer le plus possible en nous faisant rire en conférence de presse hier, hein, en s'attachant à, justement, à nous expliquer qu'elle ne faisait rien, qu'elle faisait trimer ses joueuse et en expliquant à la fin que si elle avait peut-être un peu d'humour quand même, hein, oui et qu'il fallait peut-être arriver à casser cette image de mère fouettarde, elle l'a très bien fait, mais ça lui a surtout permis aussi de continuer son jeu de bluff un petit peu et de nous voilà, elle a aligné, elle a pesé, Valérie Gauvin a répondu présent alors qu'elle avait effectivement elle avait été un tout petit peu sanctionnée le match précédent en rentrant en jeu qu'en deuxième période après ses retards à l'entraînement. Je crois que ça l'a piqué, elle a été très très présente, très engagée, elle a été constante tout le long du match, alors que le premier match c'est plutôt les cadres, hein, de l'équipe qui avait répondu présent Wendy Renard avec ses deux buts, Amandine Henry, Eugénie Le Sommer, elles avaient été très costaudes face aux Sud-Coréennes. Là, on a une autre joueuse qui a démontré qu'elle avait sa place à la pointe de l'attaque, alors que la défense a globalement tenu son rang, même si Wendy Renard n'a pas été parfaite ce soir. Amel Majri au début du match aussi.
Son talon d'Achille, hein, parce que c'est pour ça qu'elle a raté. C'était son talon. Hein. Moi, je dirais que c'est les talons d'Achille de Wendy Renard. Mais juste pour rejoindre vos propos, c'est vrai que Diani et Gauvin se sont quand même pas mal trouvés. Je trouvais que, en fait, c'est un peu, je suis un peu mitigée parce que d'un côté, je trouvais que par moment, bah, c'est deux joueuses qui se trouvent bien. Donc je me suis dit, tiens, quel bon choix des Colin Diacre. Et par moment, je me disais, mais en fait, il y en a une qui centre, l'autre qui ne trouve personne. Donc du coup. Je sais pas, je suis encore mitigée par rapport à...
Il y a eu pas mal
d'imprécisions
en première période quand même, effectivement. Oui. Hein, on a eu l'avant-dernier geste, ça c'était un peu flottant, c'était un petit peu compliqué à trouver. Oui, c'était un... Voilà. Après, il faut qu'elles soient... Mais regardez, Delphine Cascarino aussi, quand elle rentre en jeu, elle a eu envie peut-être un moment de pousser un peu loin à une action où elle a eu sa chance, mais après, elle aurait dû servir ses partenaires dans la surface. Elle n'a pas été plus altruiste que n'a pu l'être des fois Kadi Dixon-Deniou qui ne lève pas les yeux du ballon, comme vous le disiez, Salim. Voilà, peut-être des petites choses à travailler là-dessus, et c'est bien, ça permet de les remettre tout un peu en question, je pense. Alors qu'on ne peut pas remettre grand monde en question, en revanche, dans le travail défensif et au milieu de terrain, avec des joueuses comme Amandine Henry qui a été exemplaire jusqu'au bout. Hein.
Salim.
Mais jusqu'ici, en tout cas, il y a une personne aussi qu'il faut vraiment saluer, et pas qu'un peu, c'est Corinne Diacre, au final. Le pragmatisme qu'elle dégage, moi, elle me fait de plus en plus penser à Didier Deschamps. De la manière de faire, Didier Deschamps, alors oui, désolé, vous
on
allez dire.
Non, c'est le genre complètement,
Mais c'est vrai que Didier Deschamps est connu pour être pragmatique. Au final, même s'il y a des joueurs qu'il peut moins apprécier, il sait que ces joueurs-là vont être efficaces au moment idoine. Valérie Gauvin a été sanctionnée par Corinne Diacre lors du premier match, mais elle savait qu'en remettant Gauvin, elle ne la perdait pas déjà, elle la gardait dans l'effectif, j'allais dire, et dans cette Coupe du Monde. Et Gauvin répond
psychologiquement
présent
important.
En marquant en plus. Ouais. Donc Corinne Diacre est gagnante plus que jamais. Diani, elle la garde dans cet effectif. Bref, tout le monde est là.
Et pour terminer, on va écouter Corinne Diacre quand même. Elle s'exprimait en sortie de terrain, elle aussi au micro de nos confrères de TF1. Elle s'exprimait évidemment sur la prestation des filles.
On a bien joué avec nos têtes ce soir aussi, alors avec nos jambes aussi parce qu'on a beaucoup couru. Mais voilà, cette victoire, elle est importante contre un adversaire difficile à jouer. Mais on a fait ce qu'il fallait, surtout en deuxième mi-temps. On savait qu'on ne gagnerait pas tous les matchs 4-0 non plus. Voilà, ce soir, c'était plus difficile. On savait que ce serait un adversaire complètement différent de celui de la Corée. Et le Nigeria ayant battu la Corée juste avant, je pense que ça nous a mis un peu de pression, mais on a su la surmonter. La qualification est acquise. Maintenant, on veut aller chercher la première place.
Ah oui, chercher la première place, eh bien, on va en parler justement, parce qu'il faudra aller la chercher contre le Nigeria, mais vous voulez quand même ajouter un petit détail, Cindy.
Oui, je dis quand même, on parlait des Colin Diacre en disant qu'elle a quand même du mérite, elle a doublement du mérite, parce qu'elle a réussi à gagner un match quelque part contre la Norvège. Il faut savoir que Colin Diacre avait déjà joué en fait en tant que capitaine en 2003 contre les États-Unis, s'était incliné 12-0 aux États-Unis, et là, bah, ses filles arrivent quand même à...
Ouais, contre la Norvège, aux États-Unis.
Aux États-Unis, tout à fait, à la Coupe du Monde.
Eric, pour terminer, les filles donc, auront un troisième match. Ça sera à Rennes, et ça sera toujours avec vous, aux commentaires. Mais surtout, ça sera contre Nigeria. Le Nigeria, eh bien, qui a gagné cet après-midi, gagné contre les Coréennes, et surtout, eh bien, fait gagner une première équipe africaine, une de ses premières...
Dans cette Coupe du Monde,
trois équipes
c'est
engagées
vrai.
Dans la Coupe du Monde.
Bah, il me tarde de le voir ce match et de revoir Aziza Tchouaméni qu'on avait vu en finale aussi.
Elle a marqué.
Oui, elle a marqué de nouveau. Elle fait des différences. Ses partenaires ont vraiment très envie de la trouver. Effectivement, quand il y a des espaces, elle a vraiment réussi à marquer un beau but. Hein. Il fallait s'arracher quand même pour le marquer. Puis juste le bon dosage pour pouvoir redresser la course du ballon.
Elle a bien gagné son duel face à la gardienne.
Elle l'a bien gagné. Elle avait marqué aussi face aux Lyonnaises en finale pour Barcelone quand elle était rentrée en jeu. Donc ça va être des retrouvailles avec pas mal de joueuses de l'équipe de France à Rennes lundi. C'est intéressant. Alors certaines seront peut-être ménagées du côté de l'équipe de France, et Corinne Diacre voit qu'elle doit ménager un petit peu ses troupes pour les huitièmes de finale, mais les Nigériens, elles ont tout à gagner. Et s'il y a une équipe de France peut-être un tout petit peu moins performante, puisqu'elle a juste besoin de gagner, si elle lui met moins de buts, peut-être que les Nigériens auront une chance de passer dans les meilleurs troisièmes. Ça va pas être simple quand même, parce qu'elles ont pris pas mal de buts. Elles en ont pris trois lors du premier match. Si elles en prenaient trop lors du troisième, elles auraient peu de chance. Est-ce qu'elles ont une chance de menacer les Françaises? Honnêtement, je ne le crois pas, mais il faut il faut se méfier quand même de la capacité de réaction de ces joueuses. Voilà, on voyait les Norvégiennes plus haut, moins fortes face aux Françaises. Vous le disiez, Salim, elles ont quand même surpris, elles ont tenu leur rang, elles ont été costaudes, même sans la meilleure joueuse du monde. Hein, c'est ça, sans le Ballon d'Or.
C'est ça, d'ailleurs. Voilà.
Azizat Ochala, d'ailleurs, a déclaré à la fin du match « Tout est ouvert dans notre groupe par rapport au match entre la France et la Norvège. Il faut se concentrer avant tout sur notre jeu, quel que soit l'adversaire en face. » Donc voilà, les Françaises prévenues. Merci beaucoup, Éric Chorin, d'avoir été avec
Merci
nous.
Merci à vous.
Merci aussi à Martin, qui est à la pêche au son, n'est-ce pas ?
Il court partout, Martin.
Ouais, ouais, mais
il est jeune, lui.
Voilà, il a la jeunesse.
Vous êtes tout jeune aussi, Éric.
Merci beaucoup, Éric. Et bon retour, eh bien, ou bon transfert vers Rennes. Je ne sais pas si vous arrêterez entre-temps.
Je repasse par la Gasparie, quand même.
Alors, on se verra.
Allez, à
Merci.
Bientôt.
Merci, bonsoir. Les Nigérianes, c'était peut-être la bonne surprise de l'après-midi, en tout cas. Pour ce qui est des équipes africaines, et elles sont championnes d'Afrique en titre. C'est vrai qu'elles s'étaient un peu ratées contre la Norvège, et là elles ont redressé la barre.
Oui, surtout face à cette équipe de Corée du Sud. En fait, on attendait ces deux équipes qui ont vraiment très déçu lors de la première journée, la Corée avec la défaite 4-0 et donc le Nigeria la défaite 3-0 face à la Norvège. Et au final, on a vu clairement l'équipe du Nigeria. Elle n'est pas championne d'Afrique pour rien. Elle a clairement montré qu'elle était au-dessus de la Corée du Sud. Alors certes, le premier but, c'est de la réussite. Il y a un but contre son camp d'une Coréenne. Mais Ochoala, quand même, ce deuxième but. Alors, si c'est, je vais le dire, pardon, j'arrête pas de comparer, mais c'est pour insister sur le but et la valeur du but. Si c'est un homme qui le marque, si c'est une équipe masculine, on le remonte. Parce que quelle puissance de la part de Ochoala, mais là, c'est une femme. C'est pour ça, insistons sur la fille, et on le fait régulièrement. C'est un but magnifique, vraiment, en termes de puissance, le dribble, le geste juste pour réussir à redresser la course du ballon. Tout est parfait dans ce but. Et le Nigeria, mine de, à 3 points, peut finir
à égalité avec la Norvège.
Exactement, peut pourquoi pas même obtenir une place de meilleur troisième. Et donc, ce match face à la France, c'est un match clé. Là où on se disait que les Françaises, elles vont peut-être faire un peu tourner, etc. Le Nigeria va jouer le coup à 100%. Attention à l'équipe de France.
Oui.
Vraiment.
Match piège.
Totalement.
Hein,
et pas qu'un.
Comme on dit dans le jargon. Et puis à signaler aussi eh bien, ce match qui a opposé les Allemandes aux Espagnoles. Et finalement, eh bien, les Allemandes l'ont emporté sur le score de 1-0. Mais pareil, comme les Espagnols avaient gagné, eh bien, finalement, les Espagnols ont encore une chance. Et rappelons qu'il y a eu un record historique établi hier, n'est-ce pas ? Ça faisait un peu mal.
Eh oui.
Les Américaines qui sont arrivées tambour battant depuis leur pays et qui l'ont emporté à Reims face aux Thaïlandaises sur le score de 13-0. On va s'arrêter quelques instants sur les Coupes du Monde et notamment sur celles qui existèrent, on va dire, sans emporter le nom. Thibaut Rabeu, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être en direct avec nous dans Radio Foot International.
Merci à vous.
Nous sommes en direct avec vous parce que vous avez publié un livre qui s'appelle « Foot féminin, les coupes du monde officieuses ». Et vous racontez dans ce petit livre que, en fait, avant 1991, avant que la FIFA n'organise elle-même en son nom les Coupes du Monde, en 1991 la première, c'est pour ça qu'on en est à la huitième, eh bien, il y a eu d'autres tournois internationaux. Les filles jouent au football depuis très longtemps, alors on en parle même au début du 19e siècle. Et là, il y a eu des tournois, vous les appelez d'ailleurs des tournois pirates, parce qu'il y en a eu plusieurs. Il y en a eu en Italie, souvent, mais aussi en Asie et en Amérique du Sud.
Oui, c'est exact. Il y en a eu beaucoup, notamment entre les années 70 et 80. Donc, comme vous l'avez dit, aux quatre coins du monde, surtout en Asie, beaucoup en Italie et un petit peu au Mexique aussi, notamment le Mondial 71. En fait, la première Coupe du Monde officieuse a été organisée en 1970. Et dans mon livre, je parle surtout de la Coupe du Monde 1971, qui est assez exceptionnelle. Je pense que je ne sais pas si on peut s'arrêter dessus un moment.
Oui, je voulais justement qu'on s'y arrête. D'abord, l'affiche, elle est magnifique parce que c'est une fille avec ses deux couettes comme ça qui pose.
C'est la mascotte.
Hein, la mascotte qui pose d'une manière vraiment très sûre d'elle avec ce ballon. Il faut rappeler que c'était 1971, un an après la Coupe du Monde qui se déroule si bien au Mexique et où Pelé est sacré et cette belle victoire du Brésil, la troisième dans une Coupe du Monde. Mais là, il y a des scénarios absolument incroyables. probable parce que si en finale on retrouve le Mexique et le Danemark, avant on fait un peu tout pour que certaines équipes soient éliminées, c'est bien ça ?
Voilà, c'est ça en fait. Les organisateurs, bon, c'est des Italiens, ce sont des hommes d'affaires. Donc le foot féminin, bon, ils n'en ont pas grand chose à faire, ils sont plutôt là pour les profits, pour le profit.
Déjà.
Et du coup, Avant
la FIFA.
Ils truquent un petit peu les tirages au sort, de sorte à ce que la meilleure équipe du moment, c'est-à-dire le Danemark, qui a remporté la première Coupe du Monde officieuse en 1970, se retrouve en finale face au Mexique, forcément le pays hôte, de façon à ce qu'il y ait le maximum de personnes dans le stade.
Alors, il y avait 110 000 personnes, c'est ça ? Ouais. Il y avait 110 000 personnes.
110 000 personnes, en fait, ça s'est joué exactement dans le même stade que la finale masculine, mm-hmm. qui s'est jouée en 1970. Et donc, oui, 110 000 personnes au stade. Alors, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est encore le record d'affluence pour un match de football féminin. Donc, c'est pas trop connu, mais j'ai pas trouvé trace de matchs qui ont attiré plus de monde. Le record officiel, ça date de la finale 99 féminine, mm-hmm. Officielle, celle-là. C'était avec les États-Unis, c'était aux États-Unis, il y avait 90 000 spectateurs. Donc là, 110 000 en 1971 au stade Azteca, c'est assez incroyable, je trouve.
Et en plus, alors le Mexique va perdre dans son stade, dans ce stade plein, oui. Face au Danemark. Et c'est la belle histoire d'une joueuse danoise qui n'a que 15 ans.
C'est ça, Susanne Augustesen, donc triplée en finale d'une Coupe du Monde devant 110 000 spectateurs, 15 ans comme vous l'avez dit. 3 buts du gauche, alors qu'elle est droitière. Bon, c'est plutôt pas mal. Il faut savoir que cette joueuse, elle a 15 ans, elle est encore scolarisée à l'époque. Ses parents ont hésité un mois plus tôt à l'envoyer au Mexique pour des questions d'argent et tout simplement pour ne pas rater un mois de cours. Donc voilà, ça, effectivement, c'est la très belle histoire de ce mondial. Et d'ailleurs, cette joueuse danoise, Susanne Augustesen, elle a été reconnue en 2014. Il me semble qu'elle est rentrée au Hall of Fame, le temple de la renommée du Danemark. Donc voilà, ouais, la consécration bien des années plus tard.
Ouais, c'est incroyable. Et d'ailleurs, Salim, vous avez aussi, vous connaissiez cette histoire. Et elle a joué ensuite en Italie.
Ouais, hein, à la Lazio, dans plusieurs clubs, mais c'est vraiment à la Lazio où elle est devenue plus que populaire. Et effectivement, c'était évoqué le côté Hall of Fame. C'est vrai que c'est une joueuse qui a commencé très jeune, hein, cela a été évoqué. Mais c'est surtout en Italie qu'elle est très, très connue. Alors que le foot italien, alors même s'il y a une équipe nationale, évidemment, qui essaye petit à petit de faire des choses, et on a vu ce résultat il y a quelques jours face à l'Australie, mais en Italie, elle est très reconnue alors que c'est une étrangère. Oui, comme quoi, vous pouvez être dans un autre pays. En plus, Italie, qui pour le coup a beaucoup d'affection, je veux dire, pour le foot masculin, pas forcément pour le foot féminin.
Oui, c'est
vrai. Et pourtant, c'est une étrangère dans le foot féminin qui est très apprécié en Italie.
Oui. Voilà, c'est ça. C'est une joueuse qui a quand même marqué plus de 600 buts dans le championnat italien, qui a gagné au moins 6 fois le championnat. Enfin, on peut même dire que c'est une légende du foot féminin, tout simplement.
Exactement.
Et Thibaut Rabeu, dans votre livre aussi, vous racontez une histoire un peu méconnue. Alors, en ce moment, on en parle plus en France, bien sûr, vu le contexte.
Évidemment.
Mais c'est les filles de Reims, parce que le Stade de Reims était déjà une grande équipe pour ce qui était, on se souvient des épopées européennes à l'époque avec Copa. Et là, la première équipe féminine est créée en 68. Et d'ailleurs, c'est beaucoup de ces Rémoises qui représenteront l'équipe plus ou moins de France ou française dans ces tournois internationaux.
C'est ça en fait. Bon, déjà l'équipe de France à l'époque, c'était beaucoup de Rémoises. Hein, forcément, c'était la meilleure équipe même sur la scène nationale. Et le Stade de Reims a été invité à Taïwan, à Taipei, dans la capitale, en 1978 pour disputer, pareil, une Coupe du Monde officieuse. Et les Rémoises ont gagné, tout simplement. Enfin, elles ont gagné, elles ont fini ex aequo avec la Finlande. Et là aussi, c'est une histoire assez incroyable. L'organisation aussi... Bon, je ne vais pas dire qu'elle laissait à désirer, mais en tout cas, les conditions climatiques étaient catastrophiques. Il y a eu des typhons, ça a repoussé tous les matchs. Les Rémoises ont joué deux matchs dans une même journée. Les organisateurs, à la fin, ils étaient tellement désespérés qu'ils ont mis le Stade de Reims et Helsinki égalité. Donc, ils ont dû faire 20 médailles en plus au dernier moment.
Et découper la coupe en deux.
Ouais, c'était presque ça. Ils en ont refaire une. Enfin, c'est...
Un peu, oui, c'était amateur. Assez...
Bah voilà, c'est ça, c'est le sport amateur, et c'est pour ça que ça offre pas mal d'anecdotes assez intéressantes. que je raconte dans mon livre. Il y en a vraiment beaucoup d'autres.
Mmh, ouais, beaucoup. Et c'est vrai qu'on découvre toutes ces anecdotes parce que maintenant que la Coupe du Monde est en France, eh ben, ça permet de se retourner un peu sur cette histoire.
Mais, Salim. Mais c'est vrai, quand je reviens à l'instant sur cette Coupe du Monde 71, imaginez à l'instant 110 000 personnes. Déjà, quand c'est un match masculin, on se dit 110 000, c'est quelque chose d'incroyable, ouais. D'absolument invraisemblable. Il y a très peu de stades, au final, dans le monde qui peuvent ainsi
le avoir record une telle
contenance. Mais c'est un record inégalé pour l'instant. Hein. Même,
Le record pour les hommes serait de 200 000 au Maracana,
voilà,
en 1950, la fameuse finale avec l'Uruguay, perdue. Donc là, bon.
Exactement. Des 110 000, on en a eu très peu, en fait, dans l'histoire. Il y a eu quelques finales européennes, hein, qui ont atteint ce chiffre-là, que ce soit dans l'ancien Wembley, soit à Glasgow, mm-hmm. Hampden Park, l'ancienne version. Mais sinon, il y a très peu de stades, donc. Et là, pour un tel stade pour un match féminin, ça veut aussi dire deux choses. C'est que, oui, comme quoi, il y a une curiosité déjà à l'époque, qui existait. Et puis, rappelons aussi, nous sommes au Mexique. C'est bête, mm-hmm. ce que je veux dire. Mais le Mexique est connu pour être une terre de football et pas n'importe laquelle. Et puis, on était un an après la Coupe du Monde 70, donc c'est au final assez logique.
Et y a plein
après, juste à relativiser, enfin, je pense que les prix des billets n'étaient pas le même, à mon avis.
Oui.
C'est pas
oui,
faux,
c'est vrai. Cher, mais bon, c'est quand même pas mal. Voilà.
Ça a aidé. Et puis, on pourra aussi découvrir dans votre livre certaines anecdotes croustillantes sur le côté sexy des filles, qui est parfois peut-être plus une légende qu'une vérité autour de cette Coupe du Monde 1971.
Bah, en tout cas, pour la Coupe du Monde 71, ouais. Ce qui est sûr, c'est que les poteaux, enfin, les barres transversales, les montants étaient peints en rose. Donc ça, c'est l'original, c'est pour insister
bon
sur le côté
goût.
Un
ouais.
peu girly.
Ouais.
Donc c'est spécial, mais bon, ça, si c'est que ça, c'est pas trop grave.
Merci beaucoup Thibaut Rabeu d'avoir été en direct avec nous dans Radio Foot International, cette heure tardive, pour nous raconter une des anecdotes croustillantes de votre livre qui s'appelle donc Foot féminin et les coupes du monde officieuses. Et eh bien, la couverture de votre livre est sur notre page Facebook de l'émission. Je dis ça pour nos auditeurs lointains. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Au plaisir.
Merci, bonne soirée.
À bientôt.
Merci, au revoir.
On va s'arrêter maintenant un petit instant et bien sur les bleus, les bleus sans eux, les bleus, les garçons. On va écouter notre débat de l'après-midi avec Dominique Sévrac notamment, mais aussi avec Hervé Penaud et Patrick Juillard, où on s'est un peu penché sur ce match d'hier soir. On se retrouve juste après.
À Mbappé qui est parti, il est pas en jeu.
Mbappé toujours, ballon piqué. Avec Kylian Mbappé qui ouvre le score. Oh, Ben Yedder! Et Ben Yedder qui met le 2-0 pour l'équipe de France. Oh, Florian Thauvin pour le ciseau gagnant. Ça fait 3-0. Le beau ciseau de Thauvin qui coupe le filet d'en dehors.
Le corner pour Antoine Griezmann avec un ballon qui s'élève bien. Il y a Kurzuma qui était là et le but. 4-0 pour l'équipe de France.
Et oui, 4-0, 4 beaux buts, 4 buteurs en joie aussi sur la pelouse synthétique d'Andorre, sur les hauteurs des Pyrénées. Les Bleus ont corrigé le tir, on peut dire, tenté en tout cas vaillamment, voire très sérieusement d'effacer leur non-match de Turquie. Ils ont retrouvé même la tête du groupe H des éliminatoires. Alors ça, ils ont été vengés indirectement. C'était un jeu à 3, puisque les Islandais ont battu la Turquie hier soir sur le score de 2-1. Et d'ailleurs, ils les ont menés 2-0 assez longtemps. Est-ce que c'est de quoi oublier Konya?
En tout cas, il y avait le D-Day hier. Il y avait aussi le Didier, le Didier Deschamps hier à Andorre. Parce qu'avec Didier Deschamps, il y a toujours l'art du rebond. Ça aurait été très étonnant que l'équipe de France
chat.
Perde deux fois de suite ou fasse deux contre-performances de suite. Est-ce que c'est oublié Konya? Ben non, parce que les trois points ou le un point de Konya, vous l'avez pas, vous l'aurez pas à la fin. Il reste 18 points et 6 matchs à jouer. Je pense quand même que comme il y a deux qualifiés, la France va finir par se qualifier. Mais ça me paraît plus compliqué que prévu, ne serait-ce parce qu'il y a un match à 3, vous le dites. Avec l'Islande qui rentre dans la danse, on avait prévu les observateurs, les gens qui savent, les sachants, que ça serait un match.
Donc vous faites partie d'ailleurs.
Non, mais moi je me mets toujours en retrait.
On est tous
prévu France-Turquie et l'Islande est là, donc il va falloir se méfier. Disons, on les a battus au Stade de France, il va falloir aller jouer chez eux.
Ben oui, ça c'est... Mais on se souvient de l'Euro, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Alors il y a le clapping qui impressionne, mais en même temps, il y a aussi... En tout cas, c'est vive les vacances méritées, Hervé.
Ah bah mérité certainement, parce que les joueurs quand même ont
Didier,
plein les
Didier
bottes.
Deschamps a quand même parlé d'une année longue, fatigante et bien usante, sûr. Et c'est vrai qu'elle a commencé il y a un an, au moment de la
Le 15 juillet, ils étaient champions du monde,
et la compétition commençait le 7 juin ou quelque chose comme ça, et ils étaient en groupe déjà depuis au moins 15 jours ou 3 semaines à Clairefontaine, donc c'est vrai que c'est même une année et
certains
13 mois.
Certains ont eu 8 jours de vacances après, les gardiens notamment.
Ouais.
Non mais c'est sûr, c'est-à-dire que cette année était épuisante. Et puis qu'on le veuille ou non, quand vous êtes champion du monde, à part quelques joueurs, mais ça a impacté énormément de joueurs du groupe. On l'a vu avec les Rami, les Mandanda, etc., etc., Fekir. Il y a plein de joueurs qu'on n'a jamais retrouvés à leur niveau durant cette année. Donc ceux qui ont poussé jusqu'au bout, hein, jusque ces deux matchs de juin, bah, c'est quand même costaud. Parce qu'il faut mettre, en...
Match
amical, les deux, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, ce qui est très intéressant pour ce dernier match, c'est finalement d'avoir autant rebattu les cartes. C'est-à-dire que Deschamps, il a permis à des joueurs qui étaient un peu frais, qui avaient envie de montrer, qu'à un moment, c'était aussi leur chance. Et voilà ce qui s'est passé. Ça a permis ce beau match. Et surtout avec des joueurs qui avaient quand même quelque chose de gros à jouer et qui l'ont bien fait. Je pense au Ben Yedder, au Thauvin, etc., etc.
Vous ne pensez pas à l'anglais ?
Ah bah zut, et à l'anglais, alors, parce qu'on l'anglais, il n'a rien à faire.
On va l'écouter justement.
Mais il l'a bien fait.
Oui, rien à faire, il l'a bien fait.
On va l'écouter quand même Clément Langlais, parce qu'il est venu là, il était à la place. On avait une défense centrale qui était sans Varane et sans Umtiti. Et Clément Langlais, première convocation avec les Bleus, premier match, et finalement, zéro but encaissé.
On savait qu'on était attendu, qu'il fallait forcément faire un très bon résultat ici pour effacer un petit peu la défaite de Konya. Et je pense qu'au niveau du résultat et au niveau de la manière, on a fait un match très sérieux avec de la qualité, beaucoup de rythme en première mi-temps. Et voilà, on est très heureux de repartir avec une victoire. On rêve tous, quand on est enfant, d'être à cette place-là. Et aujourd'hui, j'y étais. Donc voilà, c'est énormément de fierté. Sur le plan de vue individuel, c'est forcément positif parce que c'est ma première. J'ai pu découvrir le groupe, le château, enfin plein de choses mythiques quand on n'est pas forcément dans la sélection. Donc voilà, c'était beaucoup, beaucoup d'apprentissage pour moi et énormément de joie.
Le rêve, le château. Hein, le château, c'est celui de Clairefontaine.
Ça fait un peu Star Academy comme ça. Mais
oui, ça fait
c'est
con.
Du foot.
C'est
hein.
Un truc de type.
Ça fait les contes d'enfants aussi, oui, effectivement. En tout cas, Clément Langlais, c'est aussi quand même, malgré tout, même s'il n'avait pas grand-chose à faire hier, mais l'homme qui monte dans cette équipe de France.
Incontestablement, puisqu'il a un peu supplanté Samuel Umtiti comme titulaire, pas n'importe où, au Barça. Donc,
à la décharge de Umtiti, il était blessé. C'était pas parce qu'il jouait mal.
Mais je pense qu'il y a un doute dans l'esprit de l'entraîneur du Barça maintenant, et peut-être qu'il y en aura un prochainement dans celui de Deschamps. Bon, alors c'est pas sur ce match qu'on va tirer des grandes leçons sur le niveau international de Clément Langlais. Il faudra le revoir contre un adversaire plus consistant. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que les joueurs offensifs qui ont eu un peu de temps de jeu ont tous saisi leur chance. Et j'ai aimé aussi la réaction des leaders.
Le beau but de Thauvin. C'était le plus beau hier soir, le Marseillais.
Ben Yedder a montré qu'il pouvait apporter quelque chose de différent de Giroud, mais également utile à l'équipe, et qu'il pouvait combiner avec Griezmann et Mbappé. Et surtout, Griezmann et Mbappé, qui avaient quand même été à divers degrés catastrophiques contre la Turquie, ont réagi en champion, en prenant pas à la légère ce match qu'ils auraient pu prendre comme un match d'avant vacances. Non, ils ont fait un vrai match de foot.
Bah, terminons justement, Dominique, sur Mbappé, parce que Kylian...
Le génie.
Oui, et il a confirmé ça. Il y a 100e but en match officiel. Il en a marqué 60 avec le PSG.
27 Monaco, 13 l'équipe de France. En 180 matchs.
Voilà, mais c'est là que c'est intéressant. Il a eu besoin de 180 matchs seulement. Messi, pour en marquer 100 des buts, avait eu besoin de 188 matchs. Et Cristiano Ronaldo, 277. Ça veut dire que ça confirme le côté prodige du gamin.
C'est toujours très difficile de comparer, même si là on est dans une époque où ils sont tous contemporains, ils peuvent jouer ensemble ou l'un contre l'autre, ou l'un et les uns contre les autres.
Oui, il y a à peu près les mêmes paramètres.
On a le sentiment quand même, moi je suis justement heureux d'être contemporain de ça. Je pense que je n'ai jamais vu un tel joueur de ma vie, de mes propres yeux.
Il paraît qu'il est heureux de te voir aussi dans les tribunes.
C'est gentil.
C'est ce qu'il dit.
Mais je n'ai jamais vu un joueur aussi fort, aussi rapide, qui allie la technique, la vitesse. Il a un petit défaut, c'est le jeu de tête. Ça s'améliore.
Oh, mais si, il a fait une carrière.
Oui, il a marqué un but en finale.
C'est
champion de la tête.
Pas tout à fait le même poste.
Mais voilà, c'est un prodige. Par exemple, en équipe de France, c'était sa 33e sélection. C'était 13 buts. Donc il y en a 13 buts. Il y a quelques passes décisives. Grosso modo, un match sur deux avec Mbappé, il y a un geste
décisif. Il se passe quelque chose.
Et on ne parle pas de l'avant-dernière passe qui ne sont pas comptabilisées, mais il est souvent aussi impliqué.
Par contre, Dominique, on a l'impression que les vacances arrivent au bon moment pour lui quand même.
Alors, ce qui s'est passé, c'est que depuis le 6 mars, l'élimination contre Manchester, il a pris toute la pression sur lui, du club. Tourelle s'est un peu déchargé, parti lui en vacances. Neymar s'est blessé.
Peut-être beaucoup de déceptions, sincèrement,
et voilà,
profonde
et lui,
déception.
Lui, il a continué d'être professionnel dans un club qui ne l'était plus. Il en a franchement marre et il a besoin de partir en vacances.
Et c'est partir,
et c'est un gamin de 20 ans. Alors, si il vous donne l'impression d'avoir 28 ans, c'est vrai, parce qu'il a une maturité.
Dans ses déclarations.
Mais ça reste un gamin de 20 ans à qui on demande beaucoup, je trouve.
Absolument, je suis 100% d'accord, mais il faut aussi faire très attention. Il ne faut pas que lui dépasse le joueur qu'il est. Et je pense à cette faute qu'il fait en finale de Coupe de France qui est scandaleuse, parce qu'il faut quand même le dire. Ouais. Il peut casser le genou d'un joueur. Et pourquoi ? Par un geste de frustration. Donc il va falloir aussi que son entourage arrive à le canaliser.
Et voilà, nous sommes dans un bain bleu, bleu, bleu avec un E, ou bleu sans E d'ailleurs, hein, n'est-ce pas ? Prolongeons simplement un tout petit peu ce débat autour des bleus, parce qu'il y a eu des nouvelles dans la soirée, et des nouvelles qui concernent eh bien, des transferts. Alors, à chacun un, et je vais commencer par Salim, hein, honneur aux garçons.
Allez, Sylvie, puisque c'est la Coupe du monde féminine.
Voilà, exactement.
On a déjà tous les honneurs en ce moment.
C'est ça, vous d'être galante.
Honneur aux garçons, honneur à vous Salim, une information qui est tombée juste en début de soirée, ouais. Et qui concerne Ferland Mendy.
Oui, lui qui a joué avec l'équipe de France face à Andorre, la victoire 4-0. Ferland Mendy, c'est officiel donc au Real Madrid.
Transfert. Alors, c'était dans les tuyaux, on n'est pas surpris.
Exactement, oui. Mais surtout que Didier Deschamps avait un petit peu vendu la mèche, hein, en conférence de presse avant la rencontre face à Andorre, en disant Ferland Mendy au Real, c'est bien parti. En tout cas, il avait sous-entendu cela, puisqu'il y avait des rumeurs comme quoi sa visite médicale qui avait eu lieu à Clairefontaine ne s'était pas très bien passée. Au final, il a bel et bien signé au Real Madrid, transfert de 48 millions d'euros. On connaît bien la somme de manière précise. On vous le rappelle, Lyon est coté en bourse, donc Lyon doit communiquer de manière officielle ces sommes d'argent qui sont ainsi transférées, que ce soit pour lui ou contre lui, en tout cas si c'est un achat ou une vente. Donc la somme est connue, 48 millions d'euros pour donc l'arrivée de Ferland Mendy. Et au final, je vais juste regarder la date, je vais vous dire la chose précisément.
On est le 12 juin.
Le 12 juin. Et au 12 juin donc, le Real Madrid a signé Ferland Mendy, Eden Hazard, Luka Modric, Eder Militao et Rodrigo. Oui, le Real Madrid, comme quoi, dès le 12 juin, quasiment, j'exagère, mais quasiment terminé son mercato.
Ah non, mais alors
c'est
Zidane,
pas mal pour Zidane. Ouais. Quand vous voulez préparer une saison pleinement, et quand vous voulez préparer pleinement une saison, vous avez donc quasiment tous vos joueurs. Je dis quasiment parce qu'il vous manque peut-être un ou deux milieux de terrain. Mais vous êtes très bien parti, en tout cas, pour bien finir votre mercato très rapidement. C'est tout ce qu'il faut pour le Real, pour Zidane, pour préparer.
Et non, et les préparateurs physiques du Real Madrid, hein, on va avoir des monstres là d'ici décembre.
Ouais.
Non,
mais laissez-les partir en vacances d'abord.
Oui, aussi.
Ils sont fatigués. Alors l'autre information, toujours venant d'Espagne,
qui nous vient d'Espagne,
et elle concerne Antoine Griezmann. Alors,
c'est ça.
La décision.
Alors,
on la connaît,
peut-être la décision. Non, mais en fait, il y a Gilles Malin, qui est quand même le dirigeant de l'Atlético, qui nous dit qu'Antoine Griezmann, donc les gringuitos, nous on l'appelle les gringuitos parce qu'il est blond, blanc,
le petit gringo,
les petits gringos, quoi. Il est au Barça cet été. D'ailleurs, il dit, je le cite, depuis mars, je suis clair que Griezmann ira à Barcelone. En tout cas,
alors,
ça
s'il
nous
le
semble
dit depuis mars, donc il confirme pas vraiment.
Oui, mais ça nous semble quand même plus croyable que les rumeurs qu'il y avait avec Griezmann au PSG. Ça aurait été un peu dingue. Enfin, j'y croyais absolument pas, surtout qu'il a jamais montré un amour pour les clubs parisiens, et surtout que Griezmann finalement, il s'y plaît tellement bien en Espagne que je le vois bien y rester.
Il y a donc Rilmarin qui dit ça pour Griezmann qui va aller à Barcelone, en tout cas c'est ce qu'il dit, hein, de manière assez claire. De l'autre côté, vous avez le PSG qui semble-t-il est désormais positionné sur une prolongation de contrat de Cavani. Si Cavani prolonge, on voit mal Griezmann arriver au PSG.
Oui.
Hein, ce serait pas logique, évidemment, en termes de poste.
Et ça m'étonnerait qu'on lui donne pas. C'est jusqu'à 2021, il me semble, qu'il faut la prolongation. Mais ça m'étonnerait qu'on lui donne pas à Cavani, d'autant plus qu'on entend qu'il y a déjà des discussions avec son entourage. Lui, il voudrait rester. Je pense qu'il y a aussi sa situation familiale. Il vient d'avoir un enfant. Très récemment, on l'a eu là, tout récemment. Donc, forcément, il s'y voit, il s'y plaît à Paris et il voudrait gagner une Champions League avec les PSG.
Oula, ça va être compliqué. Je dis rien. Après Griezmann,
il y a Leonardo qui arrive. Il faut rester optimiste.
Oui, bien sûr.
Leonardo apparemment qui arriverait, et même un gros coup. Alors là, du PSG, peut-être, ça serait la surprise.
Oui. S'il y arrive, Leonardo à faire venir Matthijs de Ligt, donc la merveille défensive de l'Ajax, en sachant que Matthijs de Ligt, son agent, c'est Mino Raiola,
qui aurait été vu dans un hôtel parisien.
Exactement.
Ces dernières
heures. Et Raiola qui s'entend très bien avec Leonardo.
Ah, ben alors, ça, tout va bien, donc le meilleur des mondes. Et c'est la fin de ce Radio Foot International. Je vous rappelle la deuxième victoire de l'équipe de France féminine. Donc ce soir, en cette Coupe du Monde, elles ont battu la Norvège sur le score de 2-1. Merci beaucoup d'avoir
été
avec nous, chers
Merci.
Auditeurs et chers collaborateurs. Merci aussi à Louis Lafargue, à Laurent Salerno. et à Alice qui était là aussi. À demain.